Alors, bonjour à la conférence sur comment imaginer ou construire un écosystème vidéo Web3 harmonieux. Alors, personnellement, je me suis aussi beaucoup posé de questions, évidemment, parce que je suis un acteur de l'Internet. J'ai commencé en 96 sur Internet. Donc, ça fait un bail. Et puis, on m'a proposé, il n'y a pas longtemps, de tenir, enfin, d'animer, on va dire comme ça, cette conférence Web3. Et là, je me suis posé des questions, mais... qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ça doit encore être un truc à la mode, hype, comme on dit, c'est ça, hein?
C'est
bizarre, enfin, c'est les jeunes qui disent ça, moi je suis un vieux. Enfin bref, mais en creusant un petit peu tout ce sujet qui est le Web3, les NFT, les bitcoins, la blockchain, etc., je me suis quand même rendu compte qu'il y avait tout un écosystème autour. Mais comment l'appliquer aujourd'hui à la production vidéo, comment l'appliquer à l'audiovisuel, ce qui comprend aussi l'audio, évidemment, et comment sortir, comment participer à ce Web3. Et ça m'a paru quand même franchement compliqué. Alors, j'ai eu le plaisir de discuter beaucoup avec Aïcha, avec Christopher un peu moins, mais j'ai quand même vu quelques vidéos qu'il a postées sur YouTube. Et j'ai eu une très longue conversation avec Mihai. Vous retrouvez son nom complet sur le site web du Satis. Ce qui m'a complètement ouvert les yeux qu'il faut prendre en compte ce Web3. Alors j'ai le plaisir donc de présenter deux personnes, enfin qui vont se présenter d'ailleurs. Aïcha Mansouri, qui vient d'Aix, qui a monté la société Wagly. Et puis Christopher Moisan, Whitland, qui vont tous les deux se présenter. Et puis après, on va attaquer un petit peu le sujet du Web3, des NFT, de l'argent facile. Non.
Non, surtout pas surtout depuis pas. Hier.
Alors, tout de suite, Aïcha, est-ce que vous pouvez vous présenter avec le micro, s'il vous plaît. J'espère qu'il est allumé.
Aïcha, moi j'ai eu pas mal d'expériences entrepreneuriales avant. J'ai fini par atterrir aussi dans le tourisme pendant quelques années. J'ai découvert le Web3 il y a un peu plus d'un an. Honnêtement, mon première approche c'était « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Vers où est-ce qu'on va ? Ça a l'air vraiment horrible. » Et du coup, j'ai été un peu curieuse et je me suis intéressée comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très très loin de l'image qu'on pouvait en avoir en réalité. Et ça m'a passionnée. Et donc, je me suis associée avec une amie qui s'appelle Olivia, qui était un peu spécialisée sur la partie innovation et formation. Et on a créé une formation qui n'est pas technique, donc pas destinée à des développeurs, pour comprendre tout cet univers-là, arriver à comprendre les différents techno qui sont à l'intérieur, comment est-ce qu'elles peuvent être utiles pour chacun dans sa vie perso, dans sa vie pro, sur les différents secteurs, avec un gros focus sur tout ce qui est impact positif. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, on a des technologies qui sont nouvelles à utiliser, on réinvente des usages, autant le faire de meilleure manière que ce qu'on fait aujourd'hui, en ayant un impact positif sur la société. Donc voilà, c'est assez récent, tout frais. On lance notre première promo en janvier. On a évidemment déjà fait des bêta et former des gens. Mais voilà, on va dire que je ne connais pas tant que ça l'écosystème vidéo, mais en revanche, le sujet Web3, je maîtrise plutôt bien.
Bonjour à tous les gens du public. Non, écoutez, bonjour, moi je suis Christopher Moisan, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Whitland et qui a pour mission de réinventer la manière dont vous explorez le voyage en ligne. Basé sur le Web3, donc basé sur la technologie de la blockchain, utilisant le métavers comme nouveau format d'immersion et utilisant les NFT comme nouvel outil d'engagement marketing. Donc on y reviendra évidemment, mais l'objectif c'est d'essayer de recréer un écosystème beaucoup plus sain que ce qu'il n'a été fait ces 10-12 dernières années sur l'écosystème du web, normal et classique, en redonnant le pouvoir aux marques. Dans le voyage, on est verticalisé sur le voyage, mais redonnant, globalement c'est valable pour toutes les industries, le pouvoir aux marques, de pouvoir réengager en direct leurs consommateurs en dehors des plateformes, Hein, c'est vraiment le sujet de la décentralisation. Et on travaille beaucoup avec des créateurs de contenu, donc sur les réseaux sociaux, surtout vidéo. Le voyage, c'est un des formats qui aujourd'hui engage le plus. Et ces créateurs de contenu ont la même volonté de vouloir en tout cas créer leur business en dehors du framework des plateformes, puisqu'il faut savoir que 90% des créateurs de contenu, toute industrie confondue, ne gagnent pas leur vie en créant du contenu, parce que le modèle des plateformes est un modèle basé sur l'advertising, la publicité, et donc si vous n'avez globalement pas 1 million de followers, vous ne gagnez pas beaucoup votre vie. Or, le Web3 vient complètement changer cette dynamique, puisque l'objectif, c'est de réengager et de monétiser en direct sa communauté, d'avoir plus d'authenticité, et donc de sortir de ces plateformes et de pouvoir monétiser en direct et plus avoir besoin d'un million de followers pour monétiser, mais ce qu'on appelle la théorie des 100 true fans, donc des 100 fans aux États-Unis, qui est de dire j'ai besoin de 100 personnes qui adorent ce que je fais parce que je crée du contenu de qualité et je suis capable de les monétiser, de les réengager en direct, mais surtout, je crois que c'est ça qui est important et ça peut-être ouvrir le débat, la capacité d'être propriétaire. Donc le Web3, au-delà du consommateur qu'on verra qui est en demande de ça, je crois que ce qui change, c'est qu'on va pouvoir enfin devenir de propriétaire de ce qu'on va faire sur Internet, en dehors de ce qui a été conçu. Et c'est normal, Internet a été construit comme ça, mais aujourd'hui, il est temps de pouvoir, pour les marques, les consommateurs, les créateurs de contenu qui créent cette valeur de l'Internet, de pouvoir évidemment créer un univers, un écosystème dans lequel vous allez enfin pouvoir être récompensé, monétisé et être propriétaire de l'intégralité de vos assets comme vous êtes propriétaire de vos assets dans la vie réelle. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent sur le digital.
Alors il y a cette notion de propriété. Alors c'est vrai qu'elle m'a quand même interpellé parce que moi habituellement je publie assez facilement aussi bien sur YouTube que sur Facebook ou sur les différents réseaux sociaux ou plateformes. Je me suis toujours dit, mais ces vidéos, ces photos, enfin, mes différentes publications, elles sont en moi quand même, non ?
Bah, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, quand on poste sur Facebook ou Instagram, elles ne sont pas réellement à toi. Elles sont monétisées, elles peuvent être reprises, elles sont utilisées pour générer des revenus via de l'advertising, comme disait Christophe. Donc au final, à partir du moment où on les met sur ces plateformes-là, je ne sais pas si ça nous appartient complètement. Ça appartient un peu à tout le monde à ce moment.
Vous êtes très clair, dans les CGV des plateformes, tu uploads une photo, une vidéo, tu laisses l'opportunité exclusive du licensing à une plateforme. Donc tu perds les droits. C'est aussi simple que ça. Tu n'es plus propriétaire de tes droits sur les contenus que tu publies sur des réseaux sociaux. Et donc tout l'enjeu, c'est de dire je veux récupérer la propriété, c'est à moi. Et surtout, je veux, si c'est réutilisé ou utilisé par les plateformes et monétisé par les plateformes face aux marques, je veux avoir un revenu cher, ce qui paraît logique. Encore une fois, quand tu es dans la vraie vie, tu vas créer un contenu, le donner, quand tu crées un journal papier que tu le vends, si tu es l'auteur de l'article, t'aimerais un, avoir l'autorisation, donner l'autorisation de pouvoir de le diffuser, et deux, t'aimerais à minima connaître ton audience et être monétisé pour ça, ce qui n'est pas le cas sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
Si, on donne...
Tu donnes oui, tu t'es inscrit en 2007 sur Facebook, tu as donné, en t'inscrivant, ne sachant pas comment l'Internet était construit, l'autorisation à Facebook d'utiliser à vie tes données.
C'est vrai que je suis comme beaucoup de conservateurs, je pense, de Facebook, ou de autres, à ne pas dire les conditions générales d'utilisation. Alors, le Web3, ça a été précédé par le Web 1, le Web 2. Est-ce qu'on peut faire un rapide... cheminement entre ce qu'il y a eu en 96 avec le Web 1, ce qu'il y a eu dans les années 2000, je crois que c'est 2005, 2006, dans ces zones-là, où le Web 2 est apparu, et le Web 3 maintenant. Quel est ce cheminement qui a amené cette logique d'un Web 1 à un Web 3 ?
Je pense qu'on a commencé avec un Web 1 où en fait on était plus sur, on pousse de l'information vers la personne. Donc, très souvent on dit ça va être du read ou write sur le début avec un tout petit peu d'e-commerce. On est arrivé sur un Web 2 qui est beaucoup plus dans de l'interaction, où on a connu des modifs qui sont nouveaux avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, avec des acteurs comme Airbnb, comme Uber qui sont arrivés et qui du coup en réalité ont déjà été une évolution. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui s'est dit ah, on est au Web 1, on est en train de passer au Web 2. Et au final, le Web3, c'est juste une évolution logique de ce qui existe déjà. Parce que je pense qu'au bout d'un certain moment, on commence à voir les inconvénients du modèle qui est aujourd'hui extrêmement centralisé autour de certains acteurs et qui, du coup, arrive avec une idéologie un peu différente et qui est de dire, bah, en fait, on veut désintermédiariser, on veut que tout le monde puisse reprendre le pouvoir. Donc, les marques, on en a parlé, mais aussi les usagers, aussi les créateurs, et qu'au final, ça soit une valeur qui est un peu partagée. Donc ça a vraiment mauvaise presse en général, le Web3, quand on en parle, mais l'idéologie de base avec laquelle ça a été lancé, elle est vraiment très, très noble, en fait. C'est, non, on remet les mains, le pouvoir aux mains de tout le monde, et on reprend le pouvoir sur notre propriété, sur la valeur qu'on crée, sur le temps qu'on passe sur ces plateformes-là. Et du coup, bah, ça a permis de créer la base de tout, on va dire que c'est la blockchain. La blockchain, c'est en réalité un espèce de registre où on voit tout ce qui se passe de manière transparente et du coup non modifiable en ligne, enfin c'est accessible, et qui a permis derrière de créer plein d'autres technologies, dont les crypto-monnaies dont on entend souvent parler, dont les tokens dont on va peut-être parler, mais qui sont un peu aussi des crypto-monnaies, dont les NFT, dont le métavers, dont les DAO ou de la finance décentralisée. Donc plein d'acronymes qui sont un peu barbares quand on les entend. On se dit de quoi est-ce qu'on parle, mais en réalité, quand on passe un petit peu plus de temps dessus, c'est assez simple à comprendre. Et je pense que le mieux, c'est d'essayer de reprendre, on pourra le faire peut-être aujourd'hui, des cas un peu pratiques sur chacun des sujets pour se rendre compte qu'est-ce que ça fait. Et en réalité, aujourd'hui, le Web3, il est déjà plutôt avancé. Je pense que ça reste encore petit. Mais quand on se dit, par exemple, sur la finance décentralisée, en début d'année, il y avait 250 milliards qui transitaient dessus. En fait, ce n'est pas complètement anodin, surtout quand on sait que cette valeur est arrivée en une année seulement. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui sont capables de faire ça. Et ça, c'est juste un tout, tout petit volet de tout ce qu'on peut retrouver sur le Web3. Donc, en fait, ça existe déjà. On n'est pas si en avance que ça en France. Par rapport à ce qu'on entend dans les médias, en réalité on est très en retard par rapport à des pays comme les États-Unis, mais il y a déjà énormément de projets qui existent, dont des projets sur la vidéo, dans le cinéma, et qui fonctionnent déjà.
Oui, je pense qu'on a chacun tu vois, un bout de définition différent. En fait, le Web3, moi je vois ça comme un mouvement social aujourd'hui plus qu'une définition, tu vois, d'une évolution. C'est une évolution du web, c'est, je pense que c'est tout à fait normal. On ne s'est pas posé la question quand on est passé du site web à l'internet mobile, quoi. Je veux dire, tu as développé ton application mobile ou tu as rendu ton site responsive pour le mobile parce que d'un coup, on avait tous des smartphones dans la main et qu'il fallait que nos sites web. Et donc, quand tu regardes Netflix aujourd'hui, sur l'audiovisuel, tu accèdes depuis ton téléphone, depuis ton iPad, depuis ton ordinateur ou ta télé. Je veux dire, le format importe peu. Donc, effectivement, ce qui compte, c'est un, pourquoi ça a été bâti la valeur. Donc, basé sur la technologie de la blockchain, mais de la même manière, dans deux ans, on appellera ça l'Internet. Je veux dire, aujourd'hui, quand je vais sur Facebook, on ne vous dit pas, vous allez sur React. Genre, tout le monde s'en fiche, quoi. Donc, le sujet, c'est comprendre, juste de décortiquer un petit peu. Donc, la technologie blockchain est une technologie qui est interopérable. Aujourd'hui, quand vous avez différentes technologies, vous avez peut-être expérimenté, mais quand vous voulez faire des partenariats, travailler, je ne sais pas si vous êtes un hôtel, une compagnie aérienne, ou on fait un partenariat, il faut qu'on puisse brancher nos systèmes ensemble pour que les consommateurs discutent, que nos CRM discutent entre eux. C'est des technologies qui ont été développées comme telles en silo, en fait. La blockchain, c'est une technologie qui est unique. Je viendrai pas sur l'aspect technique, mais qui vient créer un lien de confiance entre tous les acteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est ce lien de confiance qu'on n'avait pas au début de l'Internet, puisque l'Internet, quand il a été créé, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous alliez sur Google. Donc déjà, on ne vous disait pas, vous allez sur l'HTML, quoi. Vous allez sur Google, donc Google a rendu ça simple. Vous aviez ensuite, qui mettait sa carte bancaire en ligne? Personne. Donc en fait, ensuite, on est arrivé sur des protocoles SSL. Donc là, vous aviez la barre verte avec le petit cadenas. Et donc en fait, c'est devenu de plus en plus normal d'acheter sur Internet et maintenant, vous payez avec votre téléphone. Donc en fait, le lien de confiance qu'apportaient les plateformes jusqu'à présent, donc l'objectif, ce n'est pas de dire, OK, il y a un modèle, il est vieux et c'est nul. Ce qu'ont fait ces plateformes dans leur temps, c'était créer un lien de confiance entre le consommateur qui n'avait pas confiance dans l'Internet, vous alliez en ligne, c'était nouveau, et puis la marque qui se dit, c'est un nouveau moyen de discuter avec mes clients, de faire du commerce. Et donc ce lien de confiance, cette technologie qui s'est instaurée, qui est devenue normale pour tout le monde en 2022, on se dit, pourquoi j'ai besoin d'une plateforme en fait pour créer ce lien de confiance? La technologie peut le faire, le contrat peut être fait par la technologie, c'est la blockchain. Et cette technologie, elle est valable pour tout le monde, tous les acteurs, ce qui fait qu'un client n'a pas besoin de se recréer un compte. C'est ça qui est affreux aujourd'hui. Je ne parle même pas du sujet de la data. C'est-à-dire que vous créez un compte sur Google, puis sur Facebook, puis sur Amazon. Et puis voilà. Donc, le sujet, c'est de dire, aujourd'hui, quand j'ai un compte, quand je vais sur l'Internet, je me login comme je me log sur Google. Et en fait, ce compte, il est valable pour tous les sites, tous mes sites web que je vais consulter. Et c'est ça l'interopérabilité de la blockchain aujourd'hui. C'est que la technologie devient enfin commune à tout le monde. Elle est utilisée par tous. C'est le même niveau de sécurité, le même niveau de confiance. Et surtout, ma data, elle est complètement privée. Je décide de la partager ou pas contre rémunération. Je l'ouvre, je ne l'ouvre pas. Donc, je contrôle mon interaction avec l'Internet et enfin, mon interaction avec des marques. Et je ne suis plus le consommateur qu'on veut bien me donner comme rôle sur l'Internet. Je suis consommateur. Je deviens acteur, c'est-à-dire je décide de ma consommation, du temps que je vais engager, de l'engagement que je vais faire. Et donc, ça change complètement l'économie qu'on a connue. Et donc, le Web 3 aujourd'hui, c'est plus un mouvement social. Donc, d'une génération, parce qu'on parle pas souvent de à qui ça s'adresse. Ça s'adresse pas à nous, on est déjà des vieux, on a vu l'évolution d'Internet, ça s'adresse pas à nous, ça s'adresse à nos enfants. Ça s'adresse aux générations qui ont globalement 25 ans aujourd'hui, mais qui sont déjà le plus gros pouvoir d'achat de beaucoup d'industries. Et donc, ces générations-là, elles sont nées avec un smartphone, on parle de digital natif, elles sont, et les générations qui viennent derrière, qu'on appelle la Gen A, ou même génération Meta, c'est une génération qui vit, je sais pas si vous avez des enfants, mais qui aujourd'hui joue à Roblox. Et Roblox, c'est une économie où vous créez votre jeu vidéo, vous êtes créateur de contenu, vous invitez vos copains et votre communauté pour interagir en ligne, ou pour vous sociabiliser, c'est un réseau social, et vous gagnez des Roblox, qui est une monnaie. Donc globalement, vous avez des jeunes qui ont 10-15 ans aujourd'hui, qui savent très bien créer des jeux vidéo, parce que les outils sont donnés, qui savent fédérer des communautés en ligne, dans de l'immersivité, dans l'espace 3D, qui interagissent au quotidien dans cet espace 3D, et qui en plus font de l'argent. Donc il faut comprendre en fait que cette génération qui a cette mentalité, qui a l'habitude de consommer l'Internet immersif, qui a l'habitude d'être propriétaire, qui a l'habitude de gagner de l'argent sur sa création de contenu, cette génération qui ne va pas accepter l'Internet tel qu'il est construit aujourd'hui. Et c'est ce mouvement en fait, c'est ce mouvement qui emporte. C'est pas seulement la technologie de la blockchain qui fait que tout ça est possible, c'est que vous avez aujourd'hui aussi un mouvement social d'une génération qui est en demande, pour qui c'est normal. C'est pas une révolution, c'est normal d'avoir un Internet dans lequel vous êtes propriétaire de vos vêtements quand vous avez un avatar. Un avatar, c'est pas un jeu vidéo, c'est mon identité digitale. Donc pourquoi est-ce qu'on est tous habillés différemment? Pourquoi il y a certaines personnes auront des vêtements de marque? Pourquoi est-ce qu'un sac à main aujourd'hui va valoir 10, 20 000 euros, qui pourtant a la même fonction qu'un tote bag, c'est-à-dire porter des choses? Cette valeur, elle est définie par l'offre et la demande, elle est définie par la marque, elle est définie aussi par la capacité social proof à vouloir prouver les choses. Et donc, quand vous comprenez tout ça et tel que le monde est fait normalement, vous comprenez très rapidement qu'une génération entière se dit « Pourquoi je ferais une différence entre le monde réel et le monde digital, sachant que je passe déjà 5 à 6 heures par jour dans le digital ? Pourquoi est-ce que je traiterais différemment ? Pourquoi je suis propriétaire de ma maison dans le monde réel et je ne suis pas propriétaire de mes actifs digitaux dans le digital ? Je ne comprends pas. » Et donc c'est cette mécanique qu'il faut comprendre en fait, c'est pas tant l'aspect technologique, c'est qu'en tant que marque, il faut comprendre vos consommateurs, il faut comprendre comment ils interagissent aujourd'hui pour construire demain, et il faut tout de suite s'engager. Et donc on verra, il y a des exemples, des centaines d'exemples, et il faut comprendre que ça prône une décentralisation, parce qu'aujourd'hui la technologie a pris ce pas, et qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires, il y aura toujours besoin de partenaires de confiance, mais plus besoin d'intermédiaires dont la promesse de valeur est juste « faites-moi confiance, je m'occupe de tout ». Et je vais gérer pour vous la partie digitale.
Il y a un acteur de la confiance qui m'a fait couler une boîte qui s'appelle Google. Et à l'époque, je ne le regrette pas, attention, ce n'est pas du tout le propos. À l'époque, Google, c'était pour les référenceurs, pour les marketeurs, c'était le super outil. Alors je leur ai dit, Faites-lui confiance, mais bon, à un moment ou à un autre, il rentrera en bourse, et à un moment ou à un autre, il fermera les vis, et ce qui est arrivé, tout le monde, la publicité s'est écoulée sur Internet, hormis Google, et puis deux, trois autres acteurs multinationales. Et là, vous me dites, faites-nous confiance sur la blockchain. Mais qui maîtrise cette blockchain qui...
Alors, du coup, j'allais rebondir dessus. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de notion de confiance? C'est parce que la blockchain, elle est accessible, elle est transparente. Quand, en fait, il y a quelqu'un qui va coder dessus et qui habite en France, il y a n'importe quel autre développeur aux États-Unis, en Chine ou n'importe où, qui peut accéder et auditer le code et ce qu'il est en train de faire. Donc, ça fonctionne en peer-to-peer, donc en fait, entre les gens. Et on a tous accès à ce qui est en train de se passer. Les transactions sont visibles. Ça ne peut pas être modifié. Donc, il n'y a pas moyen de corrompre ces transactions-là. Et du coup, bah, en fait, on se retrouve dans quelque chose qui est clair. En fait, on voit tous la même chose. Même quand, par exemple, moi, je suis une entreprise et que j'ai créé une entreprise sur la blockchain, mon code est accessible par tout le monde. Il peut être repris, il peut être plugué avec d'autres... Enfin, par exemple, je vais me dire, je veux créer, je trouve que réseau social est bien, moi je l'aurais bien utilisé comme ça. En fait, je vais plus reprendre l'existant et je vais pouvoir le plugger avec autre chose pour créer. Et du coup, bah, quand on parle de Web3, on parle souvent de propriété. Et la propriété, c'est tout le monde, en fait. C'est réimaginer le modèle en se disant, bah, en fait, demain, tout appartient à ses usagers, à ses créateurs. Bah, c'est si on se dit, par exemple, dans le secteur de la vidéo, si on se dit un film, en fait, il est financé par les créateurs, les artistes, mais aussi par des usagers, par les gens qui vont le regarder, qui vont, par d'autres systèmes, pouvoir participer à son développement, à sa production, à sa distribution. Et en fait, il y a une manière de le faire. En fait, ça permet un petit peu de changer de paradigme. Demain, je suis Pfizer. Si nous tous, consommateurs de petits vaccins qu'on a eus, on est tout autant décisionnaires que le COMEX de Pfizer, bah, en fait, on change complètement ce qui va se passer derrière. Si on était en mesure de pousser des suggestions, de voter pour et de même de participer, ce qui est en réalité possible aujourd'hui, on peut participer à n'importe quelle boîte qui existe sur la blockchain un peu partout dans le monde. Il faut qu'on détienne ces jetons pour pouvoir faire ça. Mais donc en fait, ça ouvre des perspectives qui sont complètement nouvelles. Et la confiance, en fait, elle reste au centre parce que, bah, pour que des gens puissent interagir de partout dans le monde ensemble, ben, y a un truc au milieu qui s'appelle la blockchain et qui, lui, est un livre ouvert qui est accessible à tout le monde et où on ne peut pas tricher. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des États comme l'Argentine ou le Liban, où les gens ont des monnaies qui ont énormément d'inflation, qui ne peuvent plus faire confiance au gouvernement qui est extrêmement corrompu et qui se retournent aujourd'hui vers de la crypto-monnaie en se disant, bah, en fait, peut-être que c'est volatile. Déjà, il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles, mais on ne va pas en parler. Mais peut-être que c'est volatile, mais en fait, je suis plus rassurée que de me dire, dans tous les cas, à la fin de l'année, ma monnaie va perdre 50% parce que je ne maîtrise rien. Là, j'ai accès, je suis sur un marché où il y a de l'offre et de la demande qui n'est pas régie par quelques personnes qui sont décisionnaires. Et j'ai la main sur ce qui est en train de se passer et je n'ai pas besoin de passer par un intermédiaire pour faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, c'est un système qui a été créé et pensé pour que tout le monde puisse avoir plus confiance, à la fois les usagers, à la fois les marques, à la fois les créateurs, et redistribuer la valeur autrement. Et en général, c'est plutôt inversé par rapport à ce qu'on existe. Donc, si on reprend, par exemple, un Spotify très connu aujourd'hui, ou un Netflix très connu aujourd'hui, on va se retrouver avec des artistes qui, in fine, ils vont capter 10-12% de la valeur qui a été créée via leur production à eux. Les modèles qui sont en train d'être créés aujourd'hui sur la blockchain inversent complètement la donne, et on va se retrouver avec des modèles qui existent déjà, où en fait le créateur va toucher plutôt 90% de ce qu'il a créé, et pas l'inverse. On va se retrouver avec des modèles où on va dire, bah, en fait, toi, t'es consommateur, tu consommes de la vidéo et tout, tu fais partie de ma communauté, mais en fait, je vais te rétribuer pour toi aussi, je peux t'inclure dans le modèle. Ça crée énormément d'avantages, et en fait, ce qui est un peu incroyable dans le Web3, c'est que quand on rentre un peu plus dans le détail dedans, moi je dis souvent que c'est un peu des Legos et qu'on joue avec les Legos comme on a envie de jouer, ben on se rend compte de tout ce que ça ouvre, et c'est assez fou. Parce qu'après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que oui, c'est déjà en mouvement, on est encore au début, il y a énormément de choses à construire, et pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'y intéresser aujourd'hui, en ce moment, c'est qu'il y a... C'est en cours de construction, tout est en train de créer et on peut tous faire partie de ça et de ce qui va être créé demain, et que bah, c'est le moment d'y aller, quoi.
Allez voir, c'est Scorsese, hein, qui a lancé sa collection NFT et qui est aujourd'hui financé directement par sa communauté et plus par des studios de production. Donc en fait, le prochain film de Scorsese est financé directement par des NFT. Sans passer par des producteurs, en tout cas des missions de diffusion, distribution et besoin de financement. Donc le sujet, c'est toujours la même chose, hein. Si on parle de la blockchain, de la techno, c'est surtout la partie, on parle de smart contract, qu'en fait c'est vraiment un contrat immutable que je ne peux pas modifier, les conditions sont inscrites, on s'entend, elles sont transparentes, visibles par tous, je ne peux pas les changer. Voilà. Donc ce qui est à la différence des, je dirais, des réseaux sociaux, par exemple. Les créateurs de contenu vidéo sur les réseaux sociaux, il y a une semaine, je vais reacher 1 million de personnes parce que l'algorithme, il va me dire « Ah, la semaine d'après, ça arrive tous les jours, hein, l'algorithme change, et donc du coup, bah, mes vidéos, même contenu, même performance, je touche beaucoup moins de personnes, donc je suis moins visible, donc j'engage moins ma communauté. » C'est quand vous avez 1 million de personnes, en réalité, vous avez 5% des gens qui voient vraiment votre contenu. Enfin, je veux dire, donc c'est à quel moment, en fait, j'ai confiance dans le système établi, quoi. Donc ça, c'est la technologie de la blockchain. Ça, c'est la confiance, c'est le mot-clé. Et après, c'est le sujet des communautés. Donc c'est comment maintenant qu'on a mis ce framework de confiance en place par la technologie, comment maintenant je peux l'utiliser pour interagir, en fait, avec les gens, ma communauté, les gens qui veulent bien me faire confiance parce que je vais créer un contenu de qualité, parce qu'ils me connaissent déjà, parce qu'on va interagir ensemble, et comment je leur donne effectivement de la participation enfin. C'est-à-dire qu'une fois, vous pouvez lancer votre collection NFT, donc en vrai, votre certificat, vous pouvez le dire, ok, on va lancer un film ensemble, donc c'est le cas dans le film de Scorsese, je vais partager évidemment une partie de la recette. Si le film fonctionne, diffuser, je partage une partie de la recette avec ma communauté. Mais ce n'est pas tant l'aspect financier qui intéresse les communautés aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment expérience. Vous participez, vous allez voir la collection, vous avez des expériences exclusives, insolites, qui peuvent aller de la première du film, rencontre avec les acteurs. C'est vivre des expériences, en fait. Et donc, c'est se sentir, comme on aime tous, quand on monte une boîte, on aime se sentir inclus dans les projets. Les plateformes de crowdfunding, c'était ça. C'est, je participe, vous avez rien, vous aviez un mug, une casquette, un t-shirt, c'est parce qu'ils faisaient la différence. Mais ce pourquoi vous avez participé, c'est parce que la personne, le projet était sérieux, évidemment, il faut toujours faire ses recherches, le projet est sérieux, ça tient la route, et puis derrière, ben, j'ai confiance, quoi. Donc je pense que c'est ça le mot-clé, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que sans confiance, on ne peut rien bâtir, et qu'aujourd'hui, dans l'ère digitale, il y a tellement eu de scandales, de difficultés à comprendre, le système est tellement opaque que plus personne n'a envie de comprendre en vrai. Et on vient enfin mettre un élément de confiance qui permet de dire, ok, maintenant que ça c'est fait, que la confiance, on est d'accord, vous pouvez vérifier tout ce que je fais, la trésorerie, le chiffre d'affaires, tout ce que je vais générer, bah, construisons ensemble et faisons quelque chose de bien, quoi. C'est une question, je crois.
Ouais.
Oui.
Je voulais vous demander, quand vous dites justement, vous parlez de l'algorithme qui un jour, voilà, là on parlait de créateurs, donc ça peut avoir des influences, mais ça reste des influences individuelles. Mm-hmm. Quand on parle de médias qui ont des millions de followers sur ces plateformes, qu'est-ce que ça implique en fait au niveau du rôle du média dans une société? Est-ce qu'il est plus maître en fait du média qu'il crée?
Bien sûr.
Et il y a une formule qui est assez sympathique là-dessus, c'est que les plateformes de réseaux sociaux en fait, mm-hmm, sont des plateformes qui médiatisent les médias et donc qui quelque part jouent le rôle des médias à leur place.
Ouais, bien sûr.
Et la question que je voudrais poser, c'est comment on fait pour que les médias puissent en fait repenser un cercle vertueux de financement, mm, tout en ayant une communauté qui croit en eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de confiance dans les médias. Mm. Les derniers sondages, ça montre à peu près 40% de personnes ont confiance dans la télévision aujourd'hui. Et sur Internet, j'en parle même pas. Donc,
Brut a lancé un format Web3 qui était intéressant. En fait, je pense qu'il faut, encore une fois, il faut pas se mettre en opposition, mais bien en transition. Moi, c'est important. En fait, tout ce qu'on a bâti, on l'a bâti, je veux dire, avec l'innovation qu'on a pu amener, les volontés. Donc, l'Internet qu'on a aujourd'hui, je veux dire, on a nourri les monstres. Ça, c'est nous qui avons bâti cet Internet-là. On peut pas dire, bah, d'un coup d'un seul, ça marchera plus, on va l'oublier. C'est une transition sur les 10 prochaines années. Ça, c'est des cycles de 10 ans d'innovation. Donc, sur les médias, donc les réseaux sociaux, vous en aurez toujours besoin. C'est là où il y a les audiences, il y a les communautés. Le sujet, c'est pas de dire, ok, comment on peut sortir de là. C'est comment je peux utiliser les plateformes à classique pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire le formidable outil d'amplification d'audience. Voilà, d'amplification. Donc le sujet, c'est, une fois que j'ai créé du contenu de qualité et que j'ai une audience, comment je transforme cette audience en communauté? Comment je sors des plateformes pour créer du contenu exclusif? Donc, concret, ce qu'on fait nous avec des créateurs de contenu, vous allez utiliser les réseaux sociaux, donc vous parlez à votre audience, vous allez chercher de nouvelles audiences, peu importe la plateforme, soit du YouTube, du TikTok, du Snap ou de l'Insta. Cette audience, une fois que vous l'avez captée, que vous avez capté son intérêt, vous allez générer du contenu exclusif pour cette audience, mais qui n'est valable en dehors des plateformes que si vous avez le bon NFT, globalement la bonne carte de membre. D'accord ? Donc cette bonne carte de vente, vous allez sortir des plateformes, vous allez dire, ok, ben maintenant si tu veux voir du contenu exclusif, si tu veux une expérience exclusive avec moi, dans mon cas concret, c'est moi je suis en voyage, donc un créateur de contenu, ça va être les 10 tips, on l'a fait avec une marque, les 10 tips d'un restaurateur. Donc si tu veux connaître ma recette secrète favorite, tu veux venir la voir. Ben, il faut que tu aies le bon NFT pour accéder à l'autre espace qui est là, hébergé par moi, dont je suis propriétaire, et là, avoir une interaction. Donc, cette fois-ci, vous allez commencer à connaître votre audience. Donc, globalement, vous allez utiliser les réseaux sociaux, vous allez faire votre média. Globalement, cette audience va vous suivre au quotidien. Ah, j'aime bien ce qu'ils font. Et du coup, je vais vous suivre, ce qui est l'équivalent de votre site web. Hein. L'intérêt, c'est que votre site web est développé donc, sur la blockchain, donc vous appartient. Donc si les serveurs, ce qui est le cas notamment, c'était le cas avec OVH, brûlent, le sujet, c'est que la blockchain ne peut pas brûler. Donc globalement, votre site restera visible et accessible par tous tout le temps. Donc je vais sur ce site, c'est un site classique, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... faut pas s'imaginer, c'est un site classique. Je vais sur ce site et là, je vais trouver du contenu suisse, sauf qu'à la place d'un login, je vais me login normal, hein, sauf qu'en fait, on va venir... Tout de suite, quand je vais me login, on va aller chercher dans mon portefeuille digital, savoir si j'ai la bonne carte de membre. Si je l'ai, le contenu s'affiche. Et là, j'ai tout de suite la capacité de pouvoir accéder à des expériences exclusives qui peuvent être IRL ou qui peuvent être des expériences digitales. Et donc, l'intérêt, c'est de recréer ce lien. Et surtout, j'ai accès à la donnée. Encore une fois, pas données personnelles. Je sais qui consulte et je peux interagir. Donc, c'est comment j'utilise les plateformes pour amplifier et comment je... Ensuite, j'emmène ma communauté sur un espace dont je suis le propriétaire en créant cette envie de venir me voir. C'est comme tout, je veux dire, on ne changera pas la nature humaine. Donc, ce qu'a fait Brut, je ne sais pas où ils en sont, ils avaient lancé, c'était pas mal. C'est un sujet de dire, ok, on a des médias, on va faire des bouts de vidéos, évidemment, qui sont formés, qui sont dans les frameworks des réseaux sociaux, short form vidéo, snack content, 8-10 secondes, on donne envie. Et globalement, si tu veux en savoir plus sur l'histoire de telle personne... Là, tu viens sur mon univers, c'était le cas du Ballon d'Or. Hein. Vous regardez, je ne sais pas si vous avez suivi, le Ballon d'Or, vous avez une collection NFT. Donc le Ballon d'Or, c'est quand même une cérémonie qui n'est normalement pas accessible au public. Et là, vous aviez trois personnes, qui, deux enfants et un adulte. Hein, en plus, c'est pour vous dire que c'est vraiment les jeunes générations qui s'y mettent, qui ont pu accéder. Donc là, c'était un jeu. Hein, accéder à trois NFT rares qui vous donnent accès à la cérémonie. Donc là, vous aviez deux gamins qui d'un coup pouvaient accéder à la cérémonie, voir leur genre favori. Et ensuite, le Ballon d'Or, ils l'ont divisé en 2022 fragments, d'accord, digitaux, qui chacun de ces fragments donne accès en fait à du contenu exclusif, à des informations exclusives donc données par l'équipe, et donc qui vient créer un lien fort entre ma communauté de passionnés et de lecteurs et cet outil marketing qui est le NFT. Donc en fait c'est il faut pas imaginer, je crois que je clôture là-dessus, il faut pas imaginer que c'est des choses qui sont incroyablement exceptionnel. Il faut juste imaginer aujourd'hui qu'il y a une opportunité de pouvoir saisir cette nouvelle technologie, ces nouveaux outils d'activation pour enfin recréer un lien direct avec votre communauté et donner un sens à ce que vous faites dans les médias. Parce que les gens, ils cherchent des histoires aujourd'hui. Ils cherchent plus du contenu qu'ils vont voir algorithmique dans lequel je vais m'enfermer dans des passions du quotidien. Donc ils veulent des histoires, ils veulent cette interaction, ils veulent avoir cette approche avec vous. Juste, il n'y a pas l'outil aujourd'hui, quoi. Il n'y a aucun outil classique qui vous donne cette capacité enfin de recréer cette interaction. Le NFT utilitaire est un formidable outil pour le faire. C'est style day one, comme on dit, et tant mieux, c'est les premiers qui testeront ces formats-là seront les premiers à mieux comprendre et seront les premiers à maîtriser ce qui va se passer dans les 3 à 5 ans.
Et après, en fait, on peut passer par les NFT, mais en réalité, on peut faire aussi plein d'autres choses. On peut, par exemple, sur le média, se dire, en fait, je suis un média, je décide d'avoir des tokens, cette espèce de jeton, on peut assimiler ça à des actions. Donc, je prends la décision de créer ça sur la blockchain, je vais les répartir, qu'en général, sur les entreprises qui font ça, on retrouve toujours une espèce de, ça s'appelle un white paper, mais une espèce de livret où on explique comment est-ce que ça va être réparti, comment est-ce que l'économie de ces jetons-là va être gérée, qu'on peut assimiler ça à des actions. Et en fait, on peut se dire, ces jetons-là appartiennent aux médias, appartiennent aux équipes du média, donc les gens qui créent, qui aient du contenu à l'intérieur. Et je vais dire à mes lecteurs demain ou à mes usagers, si vous voulez accéder à ce média, vous devez, au lieu de prendre un abonnement, acheter des tokens. Là, pour l'instant, acheter des tokens au lieu d'acheter un abonnement, on est juste sûr, on fait passer un usage qui existe déjà, qu'on peut faire avec une autre technologie. Mais ce qui change, c'est que ce token-là, en fait, quand on l'achète, il a une valeur marchande. Cette valeur, elle augmente avec l'offre et la demande. Donc moi, en tant qu'usager, si je partage ce média avec plein d'autres amis et que ces amis ont envie d'accéder aussi, il y a encore plus de demandes sur ce jetant-là, sa valeur augmente. Et en fait, on se retrouve dans un média qui est valorisé par les actions à la fois des créateurs à l'intérieur qui du coup sont embarqués, ont envie de créer du contenu quali qui va intéresser les gens en face pour augmenter aussi la valeur de ce qu'ils possèdent ou être rétribués dessus, et des usagers qui ont en fait tout autant intérêt à faire ça. Donc là déjà on est dans le même bateau et on porte un projet ensemble, on n'est plus juste un média et je pousse en face de moi, j'ai intégré les gens qui sont avec moi qui créent et les gens qui sont en face de moi. Et ensuite on peut dire il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui sur les techno-blockchain. Bah, en fait, tous ces gens-là qui ont des jetons, en fonction de leur niveau d'investissement ou autre, ils vont pouvoir participer à ma gouvernance. Donc, c'est le média qui va mettre des règles. Donc, ça peut aller de vous m'aider à choisir un titre d'article à de quoi est-ce qu'il faudrait que je parle, ou à d'autres éléments pour participer à la boîte. Dans ces jetons-là, en fait, il y a plein de choses. Il y a « je peux participer à la gouvernance », mais il y a aussi « je peux avoir un token utilitaire », donc en fait, qui, moi, m'ouvre des utilités, donc qui m'ouvre le droit d'aller rencontrer mon podcasteur préféré, par exemple. Ou, comme disait tout à l'heure Christopher, dans le film, je vais aller assister à une avant-première où je peux être figurant dans un film, et qui, du coup, va venir rétribuer mes efforts à moi. Et en fait, dans tout ça, mon token, il existe toujours et je peux toujours le revendre et il a une valeur derrière. Et ça, c'est très différent. On reparlera dans le marché du film, c'est un peu différent aussi parce que ça crée aussi des marchés secondaires qui n'existent pas aujourd'hui dans l'économie traditionnelle. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la...
Si, pas mal. Enfin, ça répond bien. Et j'avais juste une petite question par rapport à ce sujet sur les jetons.
Oui.
Une blockchain, est-ce qu'on peut créer plusieurs jetons dessus ou est-ce que c'est un jeton pour une blockchain ?
On peut créer plusieurs dessus. En fait, il va y avoir plusieurs typologies de blockchain.
Voilà.
Il y a plein de blockchains, il n'y en a pas une. La première, ça a été le Bitcoin. La deuxième, la plus connue aujourd'hui, c'est Ethereum. La différence, c'est que le Bitcoin est arrivé, a dit, moi, je pense que ce qui se passe dans le monde de la finance n'est pas juste. Je veux changer de modèle, je crée une monnaie avec un nombre fini dans le temps on ne va pas pouvoir en créer plus. Et sa principale utilité, c'est la monnaie. Derrière, on va retrouver plein d'autres blockchains qui ont des utilités différentes. Ethereum, par exemple, est arrivé et a dit « Moi, je suis une blockchain, je vous permets de faire plein de choses, mais je vous permets aussi de construire chez moi. » Donc, vous pouvez construire d'autres niveaux de blockchains sur moi. Ils ont inventé quelque chose qui s'appelle smart contract, c'est une espèce de contrat intelligent, mais en fait, c'est juste du code. Vous pouvez créer, du coup, des boîtes, des fonctionnalités chez moi. Et donc, vous pouvez soit utiliser l'Ethereum, soit, en fait, quand on est sur un niveau additionnel, on peut créer un coin qui est, en fait, basé sur une autre blockchain.
D'accord.
C'est, oui, en fait, il y a deux niveaux de token. Tu vas avoir un niveau token ce qu'on appelle communautaire, quoi. Donc, globalement, ton programme de lot de fidélité.
Et ça, c'est un NFT ou c'est un jeton ?
Non, tu peux avoir deux choses. En fait, tu peux avoir... Le NFT, c'est surtout ton certificat. Okay. Tu vois, je pense que le NFT, aujourd'hui, on va pas rentrer dans le débat. Il y a plusieurs niveaux de NFT. Tu vois, il y a le NFT art qu'on a vu, collection, où tu es un collectionneur comme un tableau. Tu prends ton NFT, il prend de la valeur, tu le revends. Il y a un aspect très spéculatif. Tu vas avoir un NFT, je pense que vous connaissez tous Sorare aujourd'hui, ce qui est un NFT utilitaire, c'est-à-dire basé sur le résultat des matchs en temps réel. Mon NFT va prendre de la valeur. Donc on parle de NFT dynamique. Et tu as des NFT maintenant qui arrivent, qui vont être des NFT plutôt sur des cas d'application. Ta carte d'identité, ton passeport va être un NFT, encore une fois. Donc on arrive sur des applications où tu peux faire beaucoup de choses. Le NFT, je pense qu'il faut plus le voir aujourd'hui comme ton certificat de propriété, donc en gros, ce qui justifie que tu es propriétaire de ton asset digital. D'accord ? Ensuite, le token, tu en as deux choses, donc c'est quand même extrêmement régulé. Donc tu as ton token communautaire, ça c'est ton point loyalty, tu peux le lancer demain, et la valeur va déterminer l'offre et la demande. Donc évidemment, si tu as personne qui l'achète, qui l'achète et que tu ne fournis pas de contenu, il ne va rien se passer. Il est interopérable, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que globalement tu peux faire un partenariat avec un autre média et en fait parce que ton consommateur adore ce que tu fais à son token, ça peut lui ouvrir des droits sur un autre média. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, quand tu veux lancer ton token, là, ta monnaie, là, ça reste une monnaie classique. C'est-à-dire qu'il faut que tu te déclares à l'AMF, il faut que tu puisses avoir des mécaniques qui puissent justifier de l'offre et la demande. Puisque comme n'importe quelle monnaie, il y en a qui vont la décaisser, il y en a qui vont l'encaisser. Donc la valeur, elle va être faite sur l'utilisation de cette monnaie au sein de ton écosystème. Donc je pense que le meilleur moyen d'essayer un projet aujourd'hui Web3, j'ai toujours commencé petit et essayé de comprendre. C'est de lancer un format dans lequel c'est très simple. Tu fais des vidéos, tu fais du contenu, podcast, audio, photo, et tu donnes accès à cette page seulement à des détenteurs de NFT. D'accord ? Donc c'est une carte de membre, tu as le bon NFT, soit tu le donnes gratuitement pour tester et voir comment ça marche, soit tu peux le vendre si tu penses qu'il y a une valeur derrière sur ton contenu. Une fois que ces personnes-là accèdent à ton site, tu as souvent un canal de communication qui va avec. Donc tu vas utiliser un Discord, un Geneva, enfin différentes applications qui permettent, si tu as le bon NFT, de discuter et d'accéder à l'information. Parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent, de l'information. Et une fois que tu vois que ta communauté grandit, donc évidemment, c'est cette carte de membre, tu peux décider de dire elle est illimitée, ou en fait, elle est très limitée dans le temps. Et ce qu'on appelle la rareté, en fait, tu vois, c'est ce qui fait la valeur de ton objet. Donc comme n'importe quoi, comme tes voitures, si tu sais que tu as un nombre limité de voitures, bah, les voitures vont avoir un niveau, forcément, dans le temps, qui va prendre de la valeur. Donc, juste c'est de dire, je vais lancer 100 NFT, pas un de plus, pour ceux qui, aujourd'hui, veulent supporter mon média, et je vais parler de ça, et voilà mon histoire, et voilà où on va aller ensemble sur les 3 prochaines années. Il achète ton NFT, il utilise ton contenu, il consomme, soit il est hyper fan, il le garde, soit en fait, il se dit, bon, ça va, j'ai assez consommé, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut l'acheter, qui veut le consommer, je le revends. Et toi, tu touches des royalties sur les reventes, hein, donc c'est un revenu qui est généré au fur et à mesure dans le temps. Et après, ton token, il est plus sur, je dirais que sur des achats, du purchase, en fait. Donc, c'est quand tu commences à rentrer, tu vois que ta communauté a grandi, qu'elle a de l'intérêt et que tu veux commencer à enclencher des éléments d'e-commerce. Donc là, tu veux commencer à vendre des choses. Introduis un token à ce moment-là de communauté, puisque c'est là où ça va commencer à être intéressant. Tu dis, OK, bah, en gros, tu as un NFT, tu peux rentrer dans ma maison. Et par contre, dans ma maison, tu ne peux utiliser que mon token, que ma monnaie. D'accord ? Et donc, c'est là où ça commence à. Là, tu commences à rentrer dans une deuxième mécanique qui est beaucoup plus communautaire. Je dirais que c'est étape par étape. Lancer son token aujourd'hui sur une communauté inexistante de gens, 99,9% ne comprendront pas ce que c'est, ou comment l'utiliser, ou ce que ça donne, c'est globalement un échec assuré. Créer de la scarcity, vraiment de la rareté autour d'un contenu, et essayer d'engager, même si c'est 10-15 personnes, autour d'un club. Cette mécanique de club, c'est beaucoup plus puissant aujourd'hui que d'essayer de créer une mécanique de spéculation autour d'un token qui, encore une fois, n'a pas d'utilité si tu n'as pas de communauté engagée, quoi.
Peut-être, si, pour faciliter la compréhension, si je veux imaginer un petit peu ça, en réalité, bah, des tokens, on peut se les échanger entre nous. Donc, ça a la même valeur. Aujourd'hui, on a des dollars, on peut se les échanger entre nous, ça a la même valeur. Un NFT, c'est un non-fungible token, donc c'est un token, mais en réalité, c'est extrêmement différent et les usages sont extrêmement différents. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment unique et c'est en général un certificat d'authenticité ou de propriété de l'objet ou de ce dont on est en train de parler. Donc là, par exemple, au lieu de se dire, on a tous des dollars, on peut se les échanger ensemble, moi, je vais venir dire, j'ai un dollar sur lequel Obama a signé le jour où il a été élu. Ben, il a une valeur unique. Il ne peut pas être échangé, c'est un dollar, mais il ne peut pas être échangé contre ton dollar. C'est mon NFT, et du coup, c'est mon certificat à moi, il m'appartient à moi. Sur la blockchain, on peut voir qui m'appartient à moi et que personne ne peut le prendre. Et en fait, ce qui a fait que ça a été connu, c'est des usages pas beaucoup artistiques, mais en réalité, c'est utilisé d'un milliard d'autres moyens. On peut se dire que demain, le carnet d'entretien d'une voiture, c'est un NFT. Si c'est un NFT, ça veut dire que le kilométrage qui a été fait par la voiture, le nombre d'accidents qui a été fait par la voiture, il est sur cet NFT, il est sur la blockchain, personne ne peut le changer.
Et il influence et donc, la valeur de ce NFT.
Non, là, pour le coup, on est vraiment sur un truc utile, qui n'est pas dont je l'achète et je le vends et je spécule. Demain, en revanche, j'arrive sur le marché secondaire de la voiture. C'est là où on revient à la notion de confiance. J'arrive avec mon NFT qui n'a pas pu être modifié. La personne qui est en face de moi n'a pas besoin de se poser la question « Est-ce qu'il a fait un accident et je ne suis pas au courant ?» Parce que à partir du moment où c'est adopté de manière massive, c'est forcément sur mon carnet Et du coup, bah là, on change complètement le visage du marché secondaire. En fait, c'est plein de petites brides, mais si on les prend à chaque fois, à chaque endroit, on se rend compte de à quel point ça peut avoir de l'impact. Mais du coup, il faut vraiment intégrer bah, que quand on parle de NFT, quand on parle de token, quand on parle de blockchain, on n'est vraiment pas que sur j'achète, je vends, je spécule, je gagne de l'argent. Non, on est sur de l'usage, on est sur de l'utilité. En réalité, ces technologies, elles ont été créées pour ça. C'est pas vraiment juste pour faire du, enfin pour psychoter quoi.
Je souhaiterais votre retour d'expérience que vous l'évoquiez dans votre introduction, puis aussi votre vision sur la notion des metaverses. Parce que là, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, de s'appuyer sur un réseau social, prenons Insta par exemple, qui me sert d'amplificateur d'audience, puis boum, on va dans la bio, le lien Linktree, et donc là, évidemment, je suis sur un écran 2D, j'amène facilement mon audience vers les contenus que vous décriviez. Maintenant, si l'idée est d'être dans un environnement immersif, qui peut être propriétaire, puisque par exemple, si je suis dans un casque verrouillé par Facebook, du coup, comment je vais vers après votre metaverse qui recrée ce mécanisme beaucoup plus vertueux que l'on évoquait avec cette valeur de passer de 10% à 90% pour reprendre l'intervention précédente. Donc, quelle est votre vision et votre retour d'expérience par rapport à ça?
Alors, j'aime beaucoup ce que fait Facebook pour le métavers. Il aide beaucoup à évangéliser les notions de métavers et d'immersivité. Je préfère l'approche plus ouverte du métavers. Donc, en gros, il y a deux familles aujourd'hui. Il y a les métavers fermés. Roblox, c'est quelque part un métavers fermé. Fortnite, on en parle beaucoup. Et donc Facebook, puisque c'était le sujet, c'est de créer la confusion quand ils se sont renommés Meta, développe aujourd'hui un métavers qui est un environnement fermé dans lequel vous avez globalement retrouvé un Facebook classique, c'est-à-dire une modélisation avec de l'ads, des consommateurs qui se connectent sur cet écosystème, hébergés dans des serveurs. Et donc si demain, et c'est tout à fait faisable, possible, Facebook disparaît, l'intégralité de des actifs que vous avez générés tout au long de votre vie sur ce réseau vont disparaître avec. Il y a une deuxième famille de métavers aujourd'hui, on a un très bon exemple en France, The Sandbox, aux États-Unis Decentraland, donc on a des métavers dits ouverts, c'est-à-dire construits sur la blockchain, qui prônent l'interopérabilité, et qui prône donc un monde digital appartenant à tous et ne pouvant pas être modifié, ne pouvant pas disparaître si la société disparaît. On préfère aujourd'hui se développer sur ce genre d'environnement. Donc je dirais que ma vision elle est assez simple. Il faut, comme n'importe quel réseau social, quand vous allez sur un réseau social aujourd'hui, sur un nouveau réseau social, vous êtes de plus en plus alerte et vous êtes de plus en plus éduqué sur l'appropriation des données, sur ce que va faire le réseau social avec vos données, la monétisation de ce réseau social. Genre aujourd'hui, on le sait, quoi. Quand vous allez arriver sur le métavers, c'est ni plus ni moins qu'une évolution normale d'un format, qui est aujourd'hui un format immersif, hein, et qui est devenu possible puisque c'est... Vous avez beaucoup de technologies qui rendent ça très facile. C'est au-delà de la RVR. Encore une fois, il faut casser un autre dogme que j'entends souvent, c'est que le métavers n'est pas accessible par le casque seulement. Aujourd'hui, le métavers est accessible par votre smartphone, votre ordinateur et ou votre casque. Donc, ce n'est pas de la RVR. C'est un élément immersif 3D. Aujourd'hui, c'est très facile de construire son espace dans le métavers. Le sujet, encore une fois, c'est que comme n'importe quel réseau social, une fois que vous avez votre page qui est cette fois-ci effectivement 3D, et moi, je suis assez persuadé que dans 2-3 ans, vous allez avoir de plus en plus de pages comme Google qui seront des sites web qui seront 3D. Je pense qu'on arrivera assez naturellement, comme l'ère du mobile, sur cette évolution d'immersivité de l'Internet. Donc on parle d'Internet spatial. Et donc, du coup, l'accessibilité, c'est toujours pareil. Okay, c'est une fois que je me connecte, c'est assez simple de le voir, hein, une fois que vous vous connectez sur votre métavers, donc sur votre profil social ou votre page Internet 3D, si vous vous connectez avec un wallet, c'est-à-dire vraiment votre login, si vous connectez avec votre wallet, vous savez que vous êtes dans un univers blockchain. Si on vous demande encore de vous connecter avec un Facebook Connect, un Google Auth ou n'importe quel, ou votre email, globalement, vous êtes sur un environnement qui n'est pas blockchainisé, donc qui peut disparaître, dont vous n'êtes pas propriétaire, dont le contenu ne vous appartient plus et donc on vous partagera assez peu la donnée. Donc ma vision, elle est simple. Le métavers est un nouveau format qui est déjà exploité, qui va de plus en plus prendre d'ampleur dans les années à venir. Je ne parle même pas de l'aspect hardware. Encore une fois, cette génération, parce que c'est ça, hein, est en demande aujourd'hui, génération Roblox, Fortnite, est en demande d'immersivité pour se sociabiliser et engager. Donc c'est un format normal. Le sujet, c'est, ok, maintenant que j'engage et que je vais créer en tant que créateur de contenu du contenu sur ce format-là, à qui il appartient? Est-ce qu'il m'appartient à moi? Est-ce qu'il appartient à la plateforme? Et donc, dans quelle famille vous vous positionnez? Voilà. C'est ce qu'on dit dans le réseau Web3, do your own research, quoi. Faites vos recherches, regardez. Et à partir de là, faites votre choix. Et je ne mets pas en opposition, encore une fois, les deux modèles. Je préfère un modèle plutôt que l'autre. Je laisse le consommateur décider quel modèle il préférera. Oui.
Vous venez de dire que vous préférez un modèle plutôt close ?
Plutôt que l'autre.
Ah, d'accord.
Plutôt que l'autre. Non, non, je suis plutôt développé et favorisé un Internet qui appartient à tous, qui favorise l'inclusivité, la diversité, beaucoup plus que des environnements fermés dans lesquels les algorithmes vous imposent un peu ce qu'il faut regarder. Donc, non, je milite pour moi et mes enfants pour un Internet qui est un peu plus sympa.
Il y a un truc où j'ai un peu du mal à comprendre, c'est quand on parlait de médias qui auraient des tokens, qui pourraient prendre de la valeur par la scarcité. Et je trouve que c'est un peu en opposition avec comment fonctionnent les médias, où on essaie de toucher le maximum de personnes. Et donc du coup, peut-être des tokens qui ne prendraient pas de la valeur, peut-être même qui en perdraient ou même qui n'en auraient pas du tout. Puisque un média, s'il peut en toucher 10, 100, 20, 30, oui, c'est mieux. Après, peut-être si c'est dans un concept de table ronde, là, je peux mieux comprendre qu'il y a des trucs un peu limités, où on dit, on limite ces tables rondes à 50 tokens. Mais je pense que dans l'avenir, si ces tokens sont monétisés, la partie de ces tables rondes va perdre, parce que peut-être il y aura juste des gens qui auront beaucoup d'argent qui vont essayer d'intégrer ces tables rondes, mais qui ne seront pas pertinents. Pour, je sais pas, proposer des sujets ou proposer des titres.
Les tokens, déjà, ils sont pas forcément limités, hein. C'est quand je disais tout à l'heure sur ça que je projet, il y a un white paper. En fait, on a aussi les niveaux d'émission et des informations qui sont liés à ça pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc ça veut pas se dire fermé. Et ensuite le média, il y attache ce qu'il a envie. Donc en fait, il peut très bien dire, moi je décide d'avoir du contenu qui est accessible à tout le monde. Je sais que c'est comme ce qui existe aujourd'hui. Je décide d'avoir un contenu qui est accessible qu'à ces gens-là. Je peux dire tel niveau, on peut participer à ça à partir de tel niveau d'investissement. Mais pas forcément qu'investissement. Ça peut être, j'ai un écrivain qui sort, je ne sais pas, 5 articles par semaine, et du coup, lui a en rétribution, ben en fait, il est un peu plus décisionnaire que celui qui en sort une fois par an sur ce qui se passe dans mon média. Mais après, c'est des règles qui sont définies, mais qui, en fait, les gens définissent et ils peuvent le faire comme ils l'entendent.
Il n'y a pas nécessairement de valeur monétaire sur un token. Non, les tokens aujourd'hui de vote, hein. Un token égale un vote. Mmh. Donc plutôt que de construire nous-mêmes dans notre coin un écosystème, voyage dans lequel on va décider de la vision, on va décider du produit, on va décider de la manière dont on va construire les choses, donc on va imposer à nos clients, à nos consommateurs notre vision du produit. Aujourd'hui, un token égale un vote, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre communauté, notamment nos créateurs de contenu, qui décident quelle direction on doit prendre pour créer, nous, on a un concept d'island, une island, un écosystème, un monde. Donc, le token n'est pas une valeur monétaire nécessairement. J'ai plutôt envie de favoriser des tokens communautaires pour l'instant, qui sont des prises de décision collectives. On est vraiment dans l'ère libre. On est très libertarien dans le Web3. Hein. C'est-à-dire que c'est la communauté qui doit décider, parce qu'à la fin, votre communauté, ce sont vos consommateurs. Quoi. Un token égale un vote. Je décide. Je vote, je vote pas. Hein. Ça prend rien. Il y a des sujets. La décision se prendra quoi qu'il en soit. Mais on peut pas dire qu'on ne m'a pas interrogé. Donc là, c'est sujet de transparence. Et j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose et d'aider. Donc c'est ça la vraie valeur. C'est cette valeur de communauté, je pense.
Les tokens, il y en a effectivement plusieurs typologies. Mais pareil, en fait, c'est le média qui va décider qu'est-ce qu'il a envie d'émettre. Ça peut être de l'utilitaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être du communautaire. Ça peut être uniquement de gouvernance avec des votes et autres. Ça peut être avec une valeur monétaire. Donc c'est l'acteur qui décide, en fait, au final, qui propose ce qui va se passer. Après, si on y adhère, on suit. Si on n'y adhère pas, on n'y va pas, quoi.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, c'était par rapport à, on peut imaginer en fait plusieurs tokens, donc des tokens de vote pour par exemple dans quelle direction doit enquêter un média, mais on peut aussi imaginer par exemple des tokens qui vont rémunérer les pigistes par exemple, parce qu'aujourd'hui il y a dans les médias en tout cas il y a des problèmes de modèle de financement des journalistes, et la question que je posais c'était notamment par rapport à ça, comment faire en sorte de faire que par exemple, un pigiste qui publie un article qui va avoir 500 engagements, il va être payé exactement que si son article a 10 millions d'engagements.
Là, vous pouvez regarder une boîte, je pense, qui répond pas mal à la question. Ça s'appelle Audius. Et pour le coup, c'est plutôt sur de la musique. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde peut mettre son contenu dedans. Et en fait, chaque artiste va gagner des tokens en fonction de ce qui va se passer avec son contenu. Donc c'est en fonction du nombre de followers, en fonction du nombre de likes, en fonction du nombre de partages, combien de fois il a été rajouté à une playlist. Et effectivement, là, c'est un modèle qui roule déjà, sur lequel il y a déjà du monde. Je pense qu'il y a une boîte aussi qui s'appelle D-Live, qui est plus sur du streaming, qui est un peu dans la même idée. Et là, effectivement, c'est des créateurs qui se retrouvent du coup avec des tokens qui ont une valeur monétaire derrière, mais où on est plus sur 90-10, dont on parlait tout à l'heure. Et on en existe déjà pas mal, hein, quand on regarde sur le marché. Mais c'est encore au début, quoi.
Je vais doucement vous interrompre, parce que le temps passe très très vite. J'ai faim. Non, je plaisante, mais... j'aimerais avoir de vous encore une dernière idée. On comprend, ou peut-être pas encore, mais on comprend que le Web3, il va arriver. On comprend qu'il y a de la confiance, qui est un mot-clé quand même très important. Il y a aussi le mot-clé propriété. Quelque part, je deviens nouveau propriétaire de mes données. Mais ce qu'on ne sait pas, moi, je n'ai pas de vision là-dessus. À quelle échéance vous croyez, vous pensez... la dernière partie. À quelle échéance vous pensez que le Web 3, il va falloir y être, un petit peu comme à l'époque. À l'époque, on avait besoin d'un site internet. À quel moment ça va intervenir ce phénomène?
On y est déjà. C'est juste que c'est la phase toujours pareil, c'est la phase de c'est la courbe classique d'adoption, et en fait on est pour l'instant c'est la partie immergée de l'iceberg que tout le monde peut voir sur des projets, mais on y est déjà. Enfin, je veux dire, il y a des dizaines de milliers d'applications décentralisées qui sont aujourd'hui construites. Il y a des millions de consommateurs déjà, et moins on parlera du mot Web3, du mot métavers, du mot token, du mot NFT, et mieux ce sera. Donc en fait, vous l'avez dans le monde du sport, vous gagnez de l'argent parce que vous faites des activités physiques, parce que vous engagez, parce qu'on va au monde. Ça existe dans le monde de la musique, dans l'art, dans le cinéma. Il y a des réseaux sociaux décentralisés aujourd'hui qui sont déjà là. Donc il y a vous voyez Sora, donc dans le monde du sport, c'est énormément, dans le monde du concert, de l'entertainment, de la culture, de l'infrastructure, des banques. Tout est aujourd'hui tout est déjà mis en place. Après, l'adoption, on va prendre plus de temps. Donc on est dans une phase où on s'adresse aux populations qui sont prêtes à entendre ce genre de choses, qui sont prêtes à consommer comme ça, parce que c'est normal, encore une fois pour elles. Et c'est comme Facebook en 2007. Facebook, moyenne d'âge, c'était 20 ans, c'était les sororités. C'est un réseau social très connu des universités. Bon, aujourd'hui, moyenne d'âge, c'est 50 ans. Et la Gen Z, elle l'a plutôt délaissée, elle n'y va plus, quoi. Donc... on est dans cette courbe normale d'adoption où aujourd'hui, prenez une marque comme LVMH avec qui on avait beaucoup échangé. Pourquoi LVMH a été un des premiers groupes, le luxe surtout en général, est un des premiers groupes à aller dans ces sujets de métavers et de virtualisation et d'identité digitale? Parce que leurs consommateurs y sont. Et comme ils interrogent énormément leurs consommateurs et qu'ils sont très très en lien avec leurs consommateurs, ils savent qu'aujourd'hui, s'ils ne prennent pas ce virage... ils loupent un coche des 5 premières années. Vous avez des marques aujourd'hui, faut se rendre compte dans la fashion, vous avez des marques très connues aujourd'hui qui se sont lancées, qui sont des marques de vêtements digitaux, qui font des millions de dollars. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, quand on est créateur de contenu, hein, design artiste, 3D, quand on est créateur de contenu, je dirais même vidéo, écrivain, c'est une ère qu'il faut... Enfin, c'est un mouvement qu'il faut prendre à bras le corps, je veux dire, c'est enfin, on rémunère les gens pour la création de valeur que vous mettez sur Internet et on arrête de prendre votre contenu gratuitement. Enfin, on arrive à tous les métiers qui étaient des métiers qu'on considérait assez peu, designer de site. Aujourd'hui, c'est des métiers qui redeviennent, enfin, c'est même pas tant à la mode, qui ont une vraie valeur, je veux dire. Donc moi, je sais pas qui dans cette salle est en contact de créateur ou pas créateur. C'est déjà, si vous êtes créateur de contenu, vous devez, enfin, je veux dire, c'est une obligation de vous y intéresser. Tu ne peux pas ne pas t'y intéresser si tu es créateur de contenu, parce que c'est... Enfin, je veux dire, c'est l'Internet d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est... Et si tu es consommateur, bon, ben, c'est chacun son choix. Et en fait, Dans 2 ans, on appellera ça l'Internet. Encore une fois, ça ne changera pas l'interface, on ne verra pas de différence. Encore une fois, c'est juste qu'on touchera des points de loyalty, on échangera avec de l'argent. Et le miles dans le voyage, c'était ça. Hein. Aujourd'hui, le miles, ça a commencé, c'était des points. Chacun l'a cumulé avec son Amex. Et puis maintenant, vous pouvez le consommer sur Amazon. On appelle ça un miles, hein, mais c'est une crypto-monnaie hein, avant Bitcoin. Hein. Donc je dis juste que le plus ça sera normal et le plus la courbe d'adoption sera violente. Créateur de contenu, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Marque, si vous êtes une marque aujourd'hui qui parlez à des Gen Z et encore une fois, donc population 18-24, même, je dirais même 20-30 et Gen A, donc plutôt 10-18, ne pas s'y intéresser, c'est mourir dans 3 ans.
Je ne sais pas si je dirais que c'est aussi proche. Je pense qu'en fait, quand on regarde, il y a plein de graphes où on voit l'adoption d'Internet et l'adoption de ce qui est en train de se passer sur la blockchain. C'est deux courbes qui sont très proches. La blockchain est un tout petit peu plus rapide, mais c'est quand même très proche. Quand Christopher dit on y est, en fait, pour simplifier ça, je pense que moi, le truc qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai découvert le mot DAO, c'est un mot qu'on a très rarement entendu en France. C'est une espèce d'organisation décentralisée sur la blockchain, et que je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, c'était reconnu légalement, comme quand on pose des statuts de SAS, et qu'en fait, on pouvait le créer en ligne en 2 minutes. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, on est vraiment très en avance. Quand on se dit que le maire de New York ou que le maire de Miami sont payés en crypto-monnaie ou en monnaie virtuelle, ou que le Bitcoin, c'est la monnaie officielle du Salvador, en fait, ça a déjà beaucoup avancé à plein d'endroits. Et on n'est pas forcément autant conscient peut-être aujourd'hui. Donc ça avance, on y est déjà, mais pour aller vers l'adoption, je pense, de masse, je pense qu'il y a quand même encore quelques années, on n'y est pas encore. Je pense que la principale contrainte qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on va très souvent sur, enfin, je trouve personnellement, sur des acteurs de Web3, c'est pas toujours évident et facile d'accès pour monsieur tout le monde. Il y a vraiment des sujets du UX et d'expérience utilisateur à travailler dessus pour pouvoir embarquer le plus de monde et effectivement banaliser un peu les mots. Par exemple, nous, dans notre formation, en fait, on essaye de faire aux gens un maximum de choses. Donc, de dire, en fait, quand on dit minter, on a l'impression que c'est je sais pas quoi. En réalité, c'est appuyer un bouton et c'est un peu comme créer son adresse mail. Avoir un wallet, c'est aussi simple que créer son adresse mail. C'est pas beaucoup plus complexe que ça, mais c'est juste vraiment mettre les mains dedans et se rendre compte que c'est très facile. C'est juste qu'on ne le connaît pas. Et après, il y a un effort supplémentaire à faire par les autres acteurs. Mais je pense qu'on commencera à être une adoption un petit peu plus développé dans les 5 ans, mais oui, clairement, les marques ont intérêt à se positionner avant. Quand on est créateur de contenu, en fait, c'est tellement à notre avantage qu'on a intérêt à y aller. J'ai vu plein d'articles de, je pense, les créateurs les plus connus, notamment sur YouTube, qui ont fait un choix public et officiel de dire, en fait, moi, je décide aujourd'hui de sortir de YouTube et d'aller vers un truc sur le Web3 parce que je toucherai plus mes revenus et en fait, ce sera mon contenu et il sera valorisé en tant que tel et moi, je serai valorisé en tant que créateur de ces contenus-là. Donc, en fait, si les gens ont qui, c'est en faveur, ne porte pas cette mouvance, il faut y être quoi, pour faire avancer.
Non, et sur l'adoption, juste un dernier mot pour dire à quel point ça va vite. Il y a 2 semaines, Reddit a embarqué 2 millions de personnes en une journée sur le Web3, juste en transformant le profil picture en NFT. Donc en fait, en un mois, il y a 2 millions de personnes qui ont jumpé dans le Web3, qui ne se sont pas rendu compte qu'ils jumpaient dans le Web3, et c'est l'équivalent, je ne sais pas si vous connaissez, OpenSea, qui est la marketplace des NFT très connue dans le monde de l'art. Ils ont mis un an pour embarquer 2 millions, donc ça va aller très très vite. C'est juste une question de, aujourd'hui, l'infrastructure est là, les marques ont compris que ça ne servait à rien de parler de Web3, de NFT pour emmener les consommateurs, et on commence à être maintenant, depuis cette année, dans l'air. Moi, j'étais à Lisbonne au Web Summit, on commence à être dans l'air où les gens commencent à... Ok, comment on embarque maintenant les gens massivement sur ces infrastructures. Ça va arriver vite.
Bon, je vous remercie déjà d'être tous venus aujourd'hui, malgré les grèves. Je voudrais remercier Aïcha Mansouri de Wagly. Donc ça, c'est une formation que vous faites sur le Web3.
En fait, si vous avez envie de comprendre, 2 heures par semaine pendant 8 semaines, vous aurez compris tous les mots qu'on utilise aujourd'hui et à quoi ça sert.
Et puis Christopher Moisan de Witland. Merci à tous les deux. Ça a été très enrichissant.